à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, je suis avec... Alors, comment faut t'appeler ? Par ton pseudo ou par ton vrai nom ?
Pas mon pseudo, je préfère.
Ok, alors je suis avec Iréane Delaunay, l'autrice de trois contes AO... Alors, comment ça se prononce
européen.
Déjà ça ? Européen. Ah oui, ça se dit
oh,
européen.
Ouais, on fait
tout simplement. Des récits brefs dans la collection Chibistouri. Alors, justement, j'aimerais bien que tu commences par nous parler de ça. Qu'est-ce que c'est que la collection Chibistouri ?
Eh bien, c'est une nouvelle collection au sein de Chibi. C'est une collection à vocation purement littéraire. Donc, pas d'édition de jeux de rôle dedans.
Alors, effectivement, c'est lié au Chibi, les jeux de LG. Enfin,
oui.
C'est LG qui édite des petits jeux comme ça, des petits jeux de rôle sur Lulu, il me semble.
Oui, c'est ça. Ouais. Donc, il m'a proposé de publier sur le même médium que celui qu'il utilise, sachant que ce volume, c'est le premier de la collection. Il ouvre les hostilités, on va dire.
Ça marche.
Et il y en a d'autres de prévus ensuite par d'autres auteurs. Et ça s'appelle Chibistouri parce qu'on a aussi le parti pris de faire un format court. Et de proposer des formats courts, justement.
Donc Chibi en référence à... au
Chibi
mot
petit,
japonais,
puis Bistouri, ouais. Ici ça tranche.
D'accord.
Voilà, on annonce la couleur.
Très bien.
On cherche du court, du concis, du serré.
D'accord.
Surtout.
Donc là, en l'occurrence, Trois contes européens, c'est un ensemble de nouvelles qui se déroulent dans l'univers des Mille Marches.
Voilà.
Donc encore un lien avec les productions de LG. Alors, est-ce que tu pourrais rapidement nous présenter l'univers des Mille Marches ?
Alors, l'univers des Mille Marches...
Je pense que c'est assez indispensable pour comprendre le travail.
Oui. L'univers des Mille Marches, c'est un monde contemporain, d'ambiance contemporaine essentiellement quand même. Quand on joue même un one-shot ou une campagne, on peut faire une entrée par ce biais-là. On est dans un monde contemporain avec... une dominante fantasy, fantastique, enfin plein de choses surnaturelles qui peuvent se produire. Maintenant, pourquoi Mille Marches ? Parce que c'est un multivers.
Mmh.
C'est un principe d'espace et de temps parallèle,
ouais,
à l'infini, et dont la Terre est censée être l'univers de référence. Ça peut, y a peut-être une lointaine évocation avec Zelazny.
D'accord, ouais. Bien sûr,
les
princes
d'ambre.
D'ambre,
évidemment, on pensait aux princes d'ambre parce qu'on aime bien les princes d'ambre. Mais aussi le multivers de Moorcock. Et, enfin, voilà, c'est un peu le point de départ. Si on veut.
Alors, donc, Europa.
Europa.
Donc, c'est écrit avec un O.
Oui, avec un O tréma.
Des tréma,
on dit
voilà.
Europa. Ouais, voilà.
Voilà, donc c'est donc c'est sur la Terre, alors, du coup, Europa.
C'est censé être. Après, on peut prendre le maître de jeu peut prendre le parti pris qu'il souhaite. Hein,
le maître de jeu, ou le compteur principal,
voilà.
Ou le compteur premier.
Premier compteur.
Le premier compteur, voilà, c'est ça.
Ou première compteuse.
Donc, ouais, les Mille Marches, moi, donc, tel que je le connais, c'est ça. C'est des... Donc, les Marches, en fait, ce sont des mondes possibles.
Oui, hein, voilà.
C'est comme ça que.
C'est ça.
D'ailleurs, le jeu le plus métaphysique, en fait, de LG.
Peut-être.
C'est un jeu qu'on cite souvent à la cellule parce qu'il
ah oui.
y a des petites références, enfin il y a un petit clin d'œil à Sens dedans justement à cause de ça, à cause du caractère métaphysique de l'univers. On a eu l'occasion, chers auditeurs, de tester en fait les Mille Marches dans les micros de la cellule, donc je vous invite à aller écouter le podcast One Shot sur les Mille Marches parce que je pense que ça va être assez indispensable pour comprendre en fait ton travail et ce que tu as fait à l'intérieur. Alors effectivement... j'aimerais bien juste rapidement peut-être que tu nous présentes Europa et surtout que tu nous dises pourquoi tu as choisi cet univers pour tes premières histoires.
Bah parce que certains des contes européens ont été écrits avant que les Mille Marches existent en tant que jeu.
Alors attends. Je veux dire qu'il y a quelqu'un qui a travaillé sur... alors c'est fictif ce que tu nous dis ou c'est réel ?
Non, c'est réel. Europa a existé, le jeu en tant que tel, c'était un monde maison, si tu veux, à la base, Grumpf.
De Grumpf, d'accord.
Voilà, et c'était simplement Europa, mais il y a 20 ans de ça, tu vois, quand on jouait en club. Et ça avait été conçu avec quelques copains et Grumpf en maître d'œuvre, disons, puis on était plusieurs maîtres de jeu hein, sur Europa aussi. En fait, c'était en réaction à certaines déceptions qu'on avait eues avec World of Darkness, et en particulier Changeling.
D'accord.
On attendait beaucoup Changeling et on avait été très déçus de ce qui avait été proposé. parce que ça ne correspondait pas à notre vision des peuples féeriques. Enfin, voilà. Voilà,
donc ce qu'il faut dire, Iréane, c'est que tu es une joueuse de Grumpf et quelqu'un qui maîtrise aussi les jeux de Grumpf.
Oui.
Tu partages la vie de Grumpf.
Aussi, oui. Voilà. Enfin, je maîtrise surtout Europa. J'ose même pas dire que je maîtrise Mille Marches parce que je ne le maîtrise pas très bien, en fait. L'univers Mille Marches, moi, c'est surtout Europa qui m'a...
D'accord.
Qui me plaît.
Donc Europa part d'une déception de l'univers de Changeling de White Wolf. Donc,
voilà, c'est ça. Donc on est parti sur autre chose et ce qu'on a mis dedans, ce qu'on aurait voulu voir dans Changeling. Et puis se sont agglutinées les choses qui existaient dans White Wolf, alors, sauf les vampires. Parce que ça collait pas pour, enfin dans la mythologie de référence en fait dans le jeu les Mille Marches, je suis pas très claire dans le jeu les Mille Marches.
Attends,
ce que j'ai apporté c'est la mythologie de référence.
D'accord.
Qui est racontée au début l'histoire avec les changeurs et tout ça. Ça c'est moi qui ai écrit le mythe en fait.
Le mythe fondateur d'Europa.
Voilà.
Ouais.
Enfin, le mythe fondateur des changeurs en particulier. Je me suis occupée de ces peuples-là.
Alors,
c'est pour ça que le deuxième conte est une histoire de changeurs.
Oui, alors ce serait trop long justement de nous parler des changeurs ou...
Alors là, j'entends que ça sonne, va falloir qu'on aille manger.
Ça veut dire qu'il faut qu'on aille manger. D'accord,
oui.
Alors on fait une petite pause générique et puis on revient ensuite. Ok. Donc, voilà, on est revenu du repas. Tu me disais, tandis qu'on descendait les escaliers, que tu étais directrice éditoriale sur la collection Chibistouille.
Oui.
Je voulais préciser ça avant que le podcast ne redémarre. Et puis, donc, on était en train de parler de l'univers d'Europa.
Mm-hmm.
Tu me disais qu'il avait émergé d'une frustration autour de Changeling de White Wolf.
Oui.
Et donc, du coup, tu avais travaillé sur cet univers, et notamment les trois... Rappelle-moi les trois changeurs.
Ouais, sur les changeurs.
Et voilà, et je te demandais, est-ce que ce serait possible de nous expliquer très rapidement ce que sont ces trois changeurs, ou est-ce que s'éloigne un peu du...
C'est pas les trois changeurs, l'un des trois contes, c'est sur une changeuse,
oui,
en l'occurrence.
C'est
le
deuxième,
oui.
Celle qui écoutait.
Voilà, c'est ça. Et j'ai pas fait grand chose hein, moi dans les Mille Marches et dans Europa, c'est simplement le récit qui se trouve au début des Mille Marches et qui explicite un peu le mythe de fondation avec l'arrivée successive des humains, des changeurs, des fées, etc. Je l'ai écrit.
D'accord, ok.
C'est ça. De côté.
Qui est Dénès Prigent?
C'est un chanteur de Guerzio et de Sogno, un chanteur breton très réputé, que j'aime beaucoup. Et les citations que j'ai faites, ce sont des citations de l'une des chansons qu'il a écrites il y a maintenant un sacré paquet d'années.
Très belle. Degnos des yol que men di loir no filen du no glen guar Esko roller di reis di zrem to salendro de non ben Esko roller reis dans lidel an dar ven nem tra bekem Seis
12 chants de combat dans celui-ci pour mettre la terre à se fendre.
Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on reviendra, c'est l'impact et les liens qu'il y a entre la musique et ton travail d'une façon générale.
Mmh.
Alors pour présenter donc rapidement l'ouvrage, même si on l'a fait un petit peu au départ, donc on rappelle, donc c'est un recueil de nouvelles dans l'univers donc des Mille Marches en Europa particulièrement. Pourquoi faire un livre dans un univers de jeux de rôle?
Ben, ça s'est pas vraiment constitué comme ça en fait. Comme je le disais tout à l'heure, certains des textes datent d'avant l'existence du jeu en tant que tel. Par exemple, ce que j'ai mis au début dans ce qui pourrait être une sorte de préface, ce sont des nouvelles que j'avais écrites il y a longtemps et dont je voulais faire quelque chose et je les ai remaniées parce que ce qu'il y avait en germe, pour moi, se rapprochait de l'état d'esprit de la ville d'Europa.
D'accord.
Ce mélange de monde contemporain et puis de fantaisie plus ou moins prononcée qui peut se dérouler. C'est cette impression de réalité qui se prend les pieds dans le tapis. Donc j'ai intégré ces exemples finalement d'histoires qui pourraient très bien se passer à l'intérieur d'Europa parce que ça me semblait bien correspondre. Le premier conte aussi Europa existait déjà, c'était un jeu en germe dans le club où on était, où on y jouait à plusieurs, et les gens qui jouaient apportaient leur pierre aussi à ce jeu. Toutes les personnes qui sont citées dans les idées additionnelles jouaient à Europa, en fait.
D'accord, hein. Ouais.
Enfin, une bonne partie, en tout cas. Ce premier conte, je l'ai écrit, ça devait être en 2002-2003, tu vois.
Donc, ce ne sont pas des rapports de parties. C'est pas des choses que vous avez jouées, parce que je me suis posé la question.
Ouais, absolument
en fait,
pas.
Tu vois, par exemple, par rapport à la première nouvelle, je me suis demandé est-ce que Willy et Angie, donc qui sont les deux héros de la première nouvelle, ce seraient pas par hasard les personnages de joueurs que vous auriez incarnés au cours d'une campagne.
Pas du tout.
Donc pas du tout. D'accord. Donc en fait, c'est finalement pas du tout. Comment dire ? C'est pas les nouvelles qui s'inspirent du jeu de rôle.
Non, ça
c'est
se nourrit mutuellement.
C'est le jeu de rôle qui s'est inspiré des nouvelles initiales. D'accord. Donc, du coup,
et inversement, je me suis nourrie aussi de ce qui a été rajouté dans le jeu. En particulier pour la plus récente, j'ai mis dans l'ordre d'écriture, en fait, les trois contes. Le plus récent, donc, c'est le dernier. Et je l'ai construit en reprenant le livre d'Émile Marche qui existait à ce moment-là pour ajuster un petit peu, réfléchir au principe justement de la marche. De la marche dans les brumes qui permet de passer d'une marche à une autre, justement,
ouais.
Puisqu'on en a la démonstration dans cette nouvelle-là en particulier. Donc là, j'ai voulu faire attention à bien coller avec la façon dont c'était décrit par Grumpf dans le bouquin de règles.
Tu conseillerais quand même les trois contes pour des gens qui aiment les mille marches et qui veulent jouer à ce jeu, les trois contes
Non, pas forcément. Fait lire à des amis qui sont soit non-rôlistes, soit ne connaissaient pas les mille marches et
ça fonctionnait très bien.
Et ça fonctionnait très bien, ça leur posait aucun problème.
Bah moi, tu vois, pour ne rien te cacher, donc les mille marches, j'en ai fait un podcast il y a très très longtemps. Et effectivement, je me souvenais absolument pas de l'univers, juste de la couverture un peu art et déco et tout ça. D'ailleurs, je retrouve l'influence de cette esthétique art déco dans ton travail, dans les trois contes, mais ça m'a pas du tout dérangé pour la compréhension. Il y a juste quelques moments, par exemple, dans la première nouvelle, j'étais un peu perdu. J'ai toujours pas très bien compris ce que c'est que le personnage de Daybess.
Ouais.
Qu'est-ce que c'est en fait ce personnage ?
Bah, comme c'est une nouvelle qui a été écrite avant que les mille marches existent, justement, c'est pas très étonnant qu'il colle pas très bien. Qu'on puisse pas vraiment lui mettre une étiquette en rapport avec le jeu.
D'accord.
On peut un peu y mettre ce qu'on veut.
Ça m'a fait penser un peu à un Néphilim, tu vois, une espèce d'esprit.
Oui,
qui
moi
rentre.
Je pensais plus au. Tu vois, t'as des nananes, au peuple qui était sur l'île mythique d'Irlande avant eux, les Firkborg, enfin, toutes ces créatures-là, quoi.
Donc là, l'influence aussi des contes, y compris des mythologies celtiques et grecques, joue un rôle dans ce travail. Hein, ça, c'est clair.
On
l'a bien observé avec Flavie quand on a lu le texte. Alors, il y a aussi beaucoup de poésie, en fait, dans le texte. Il y a des poèmes par moment. Mm-hmm. C'est toi qui les as écrits aussi, ou est-ce qu'il y en a certains qui sont tirés de l'univers du jeu ? Je me suis posé la question.
Alors, quand ce sont des citations, je mets toujours...
Le poème des corbeaux, par exemple.
Le poème des corbeaux, ça, c'est moi.
Ouais.
Tout ce qui est épigraphe, en fait, je mets mes sources systématiquement, comme Den Esprit Jean, Emperor, etc.
Quelle influence la musique a eue sur ton travail ? Ça, c'est une question que je me suis posée. Est-ce que tu écris en musique ?
Oui. Et la première question que je me pose avant d'écrire, c'est quelle musique je vais mettre ?
Donc, tu écris toujours en musique ?
Oui, je choisis la musique en fonction de l'état d'esprit, ou de l'état émotionnel, je devrais plutôt dire, que j'ai besoin d'avoir pour le passage dont je dois m'occuper.
Et à la fin, il y a même une playlist en fait, conseillée pour... est-ce que tu conseillerais au lecteur d'écouter cette playlist en lisant tes morceaux, j'allais dire ?
Oui, il y a de ça.
Excellent. En lisant, du coup, tes
pourquoi pas ? C'est une liste indicative. C'est une liste... Après, voilà, on peut... Enfin, ce qui me frustre, justement, peut-être la seule chose qui me frustre, c'est que dans l'édition, on peut mettre du texte, on peut mettre de l'image, mais c'est difficile de mettre du son dans le bouquin. Donc c'est pour l'instant le seul moyen que j'ai trouvé pour rajouter cette ambiance supplémentaire qu'apporte la musique, qui est non verbale, mais qui est extrêmement forte émotionnellement.
Et la musique est même présente dans la fiction, puisque à plusieurs reprises, en fait je crois que toutes les nouvelles ont un théâtre musicale pour lieu.
Oui.
C'est-à-dire, en fait, si on réfléchit bien, donc la première nouvelle, c'est un bar dans lequel les artistes succèdent. La deuxième, c'est plutôt l'univers du hard rock, de la scène
du métal extrême.
La troisième, c'est le ballet, donc la danse, l'opéra,
la
etc.
Classique.
Et donc, du coup, la musique a toujours un rôle, au moins dans la fiction.
Oui.
Donc, en fait, même si... Alors, je veux te rassurer, moi, j'ai découvert, en fait, qu'il y avait une playlist pour écouter des morceaux à la fin.
Oui, bah, c'est pas grave, c'est
non,
très
mais
bien.
Attends, je vais te dire un truc qui va te faire plaisir. C'est que quand j'ai lu les sources d'inspiration, c'est exactement les musiques que j'avais en tête en lisant ton texte.
Ok.
Alors, on peut l'expliquer par autre chose qu'en disant que les mots évoquent la musique. Hmm. Peut-être qu'on a tout juste les mêmes influences, tu vois.
Oui, c'est possible.
On écoute les mêmes musiques.
Oui, c'est
Après, il y a des musiques, il y a des citations que tu as que je ne connais pas. Alors, Ilung, évidemment, Dead Can Dance, bien sûr, Tchaïkovski, etc. Par exemple, donc, The Cure, bien sûr. Et oui, il y a Dennis Prigent, tiens, dans Le Messager.
Mais oui.
À Turlough, au Carolane, voilà, bon, bah, mon père est compositeur de. Enfin, il est interprète de musique celtique. Donc
d'accord.
Je connais bien cet univers-là. Oui. Par exemple, qu'est-ce que c'est Xastur ?
Xastur, c'est un groupe de. Alors, c'est un one-man band de black metal dépressif, si on peut l'appeler comme ça.
Ouais, il me semble que Thomas.
Il a évolué depuis. Il a un projet un peu moins sombre, mais une bonne partie des albums que j'écoutais beaucoup à un moment donné, c'est les plus dépressifs, oui.
Et Regarde les hommes tomber, par exemple.
C'est du black metal aussi français, qui est très très bien. pour ceux qui aiment, en tout cas.
Voilà, bah, en tout cas, là, c'est là que moi je me trouve perdu. Celle qui écoutait, c'est la nouvelle que j'ai eu le plus de mal à suivre et tout ça, parce que c'est vraiment un univers qui m'est très étranger, celui du black metal.
Je te conseille le Motocultor, alors.
C'est quoi le Motocultor ?
C'est un festival de métal extrême. Enfin, la thématique, c'est humour et métal. Et je vais régulièrement à ce festival. Là, j'y vais encore. Ben, c'est la semaine prochaine.
Okay. Donc,
j'y vais sur une journée. Mais justement, c'est là. Enfin, quand je décris dans cette nouvelle-là les ambiances de concerts de métal extrême, en réalité, je décris ce que je vois.
D'accord, ok.
C'est en quelque sorte du vécu. Je ne me transforme pas en loup, je rassure.
Au sens de Zola, c'est-à-dire que tu as fait du terrain pour essayer de rendre ça au mieux, quoi.
C'est pas du Zola au sens où je suis pas un écrivain, enfin architecte. Non, mais... Si, je conçois quand même des plans, mais mon but n'est pas d'être réaliste.
Voilà, c'est ça. Ouais. Ok. C'est pas quand même. Tu veux pas non plus rendre la réalité des univers.
Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt un certain regard sur du réel. Mais du réel non plat. Je sais pas si je suis très claire.
Ben si, c'est-à-dire que tu veux alors je te le dis comme je le comprends.
Oui.
Hein. Tu veux lui donner des reliefs, notamment par l'influence des mythes et des légendes, et ajouter en fait de la magie. C'est-à-dire qu'on peut pas parler de réalisme parce qu'il y a une influence énorme de la magie dans ces univers. Même si je trouve que là, tu évites l'écueil de la magie explicite.
C'est-à-dire, oui, ça m'ennuie,
c'est jamais vraiment explicite. on pourrait expliquer, c'est du fantastique en fait.
Oui.
On pourrait expliquer les choses. Bon, peut-être.
Mais c'est pas du fantastique inquiétant, c'est encore autre chose.
Non, pas du tout. Ouais. Onirique, je dirais.
Oui, ça, oui.
Ouais.
On peut le prendre comme ça.
Alors,
tout à fait.
Dans l'onérisme, on retrouve aussi la trace et l'influence de Lewis Carroll.
Ouais, alors moi un peu moins. Moi, mes sources oniriques, c'est plutôt Gérard de Nerval, tu vois.
D'accord, ok. Alors, tu peux nous parler un peu de Gérard de Nerval ?
J'aime beaucoup Gérard de Nerval. Pour moi, il est très onirique dans son écriture, en particulier Aurélia.
Alors, comment est-ce que tu...
C'est un texte que j'aime beaucoup.
Comment est-ce que tu décrirais l'écriture onirique, du coup, si tu devais... Qu'est-ce qui fait l'écriture onirique ?
L'éruption du songe dans la vie réelle. Et là, je ne me fatigue pas beaucoup, je cite Nerval lui-même.
C'est bien. Ok, très bien. Effectivement, on n'est jamais trop sûr, même dans Europa, enfin même dans les trois contes européens, on n'est jamais vraiment trop sûr de savoir si le personnage est éveillé ou s'il dort.
Oui, ça, oui, c'est oui, mais c'est volontaire.
Ouais.
C'est ça qui me plaît aussi. Mais j'aime bien des situations un peu borderline, justement, comme ça, où on ne sait pas trop où on est, où on n'est pas dans la normalité, parce que la normalité m'embête aussi. Je la trouve plate et ennuyeuse, plate comme un trottoir de rue. Ça, je suis encore en train de citer, mais c'est Flaubert. Mon deuxième chouchou.
Excellent. C'est bien la première fois que je rencontre quelqu'un qui est chouchou de Flaubert. Hein.
Ah, mais si, si.
Alors, pourquoi,
l'éducation sentimentale, c'est un modèle.
Ok.
Ah ouais.
Qu'est-ce que tu trouves génial dans l'éducation sentimentale ?
Parce qu'il... comment dire ? Pour la partie sentimentale, je trouve qu'il décrit très très bien toute l'attente et toute la frustration de Frédéric Moreau quand il en arrive à errer dans la ville en désespoir de cause parce qu'il n'arrive pas à trouver la femme aimée. Je trouve ça très très fort et je trouve ça très juste.
D'accord.
Ça peut sembler complètement délirant et complètement nunuche, mais c'est très vrai. Je trouve. C'est peut-être pas la réalité, mais c'est la vérité.
Excellent. C'est pas la réalité, mais c'est la vérité.
Ouais, pour moi, c'est la vérité intérieure, vraiment, d'un état émotionnel que peut avoir quelqu'un quand il aime quelqu'un d'autre et qu'il ne peut pas, parce qu'il y a une impossibilité. Effectivement, l'errance dans la ville, puis bon, en plus, il y a le thème de la ville qui est intéressant aussi. C'est un univers que j'aime bien.
Effectivement, c'est très urbain, les trois contes européens.
Ouais.
Ça se passe toujours. Et d'ailleurs, en opposition, la campagne ou l'univers champêtre est l'univers en fait magique dans lequel peuvent parfois s'évader certains des héros.
Oui.
Histoire. Je ne vais pas trop spoiler non plus. Mmh,
mmh.
Voilà. Ouais. Donc, pas du tout Alice au Pays des Merveilles.
Non, ce n'est pas l'un de mes livres de référence.
Oui, plein de chats partout.
Oui, 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 mais justement, c'est peut-être trop explicite, là, pour le coup, pour moi. Genre, une autre source que j'ai à citer, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, justement, mais dans laquelle je me suis beaucoup retrouvée, c'est Eugène Green, dans un recueil de... Alors, il a intitulé ça des... Je voudrais pas dire de bêtises, puis j'ai pas le bouquin sous la main. Micro-fiction, mini-fiction, enfin bref, ou récit court. Enfin,
ouais.
C'est un même, pareil, le même objectif de récit très bref. Et c'est un peu, je me suis trouvée très proche quand j'ai vu ce qu'il avait publié. Ça m'a vraiment réconfortée parce que je me suis dit que j'étais pas toute seule.
D'accord.
Parce que j'ai eu beaucoup de refus quand j'ai proposé ce manuscrit. Et les principales réponses que j'ai eues, c'est que c'était pas du roman, c'était des nouvelles, les nouvelles ça vend pas, etc. Enfin bon, bref. Et le format était trop court, ça faisait tout juste 300 000 signes. Et bon, donc, puisque c'est comme ça, quand on n'a pas, quand on trouve pas la porte, on tente la fenêtre.
C'est intéressant de préciser que tu as commencé par envoyer ces comptes à des éditeurs, etc.
Oui. Même s'ils ont beaucoup aimé, ce que j'ai eu comme retour, c'est qu'ils aimaient beaucoup le style, ils trouvaient les personnages très forts, tout ça.
La poésie
mais
des
ouais, mais le format a vraiment posé un gros problème.
Il n'y a plus personne pour éditer des nouvelles aujourd'hui.
En France, en tout cas, parce que tu vois, dans les pays anglo-saxons, c'est différent. Ou pour le coup, Eugène Green, ce sont bien, effectivement, on pourrait appeler ça des nouvelles peut-être. Et c'est aussi très, très onirique, fantastique, mais pas forcément du fantastique effrayant du tout. Enfin, franchement, c'est aux éditions du Rocher.
D'accord, ouais.
Mais donc, c'est pas du tout de l'édition de fantasy, hein. Quand on dit édition du Rocher, c'est pas vraiment ça, quoi.
Ouais, non, pas du tout.
Et voilà. Et aussi, t'as la collection L'Imaginaire de Gallimard, où t'as des textes comme ça qui sont sur la brèche aussi. Les Nouvelles Orientales de Yourcenar, par exemple.
Chez, il y a une librairie donc tu dois connaître qui s'appelle Charybde, à Paris, qui édite, distribue en fait des livres et de la littérature dite interstitielle.
D'accord, ok.
C'est-à-dire justement cette littérature qui peut être entre la SF et le polar. Par exemple, entre l'onirisme et je sais pas, le punk ou je sais pas comment dire en fait.
C'est vrai que c'est sexe, drogue et rock'n'roll. Hein.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc, je ne sais pas tellement comment dire. Mais voilà, on voit bien que ça ne rentre pas dans les cases. Ce n'est pas du fantastique. C'est pas du...
Non, pour les littératures d'imaginaire, ça frotte un peu. Et puis, voilà. C'était ce que je voulais aussi.
Donc, je me dis que eux, par exemple, chez Caraïbes, ils pourraient être tout à fait intéressés par l'édition, les Chibistouri, quoi, que tu proposes. Donc, ça peut être intéressant de rentrer en contact avec eux. C'est vraiment leur spécialité. Et ils distribuent même. Enfin, ils distribuent. Je ne sais pas comment on dit d'ailleurs. Si, c'est ça, il distribue. Quand un magasin, il a sur ses étals des...
Alors, ce n'est pas les distributeurs, puisque c'est plutôt une fonction de libraire, en fait.
Ouais, donc voilà, c'est une librairie. Voilà. Mais comment on dit il propose dans sa librairie, on va dire ça comme ça, il propose dans sa librairie aussi des jeux de rôle.
D'accord.
Donc voilà. Okay. Donc je pense que tu pourrais y avoir largement ta place sur les rayons si toutefois ça leur
oui,
plaisait.
Oui, bien sûr. Okay.
Mais voilà, c'est... Alors, je me suis posé aussi des questions sur... Pour rester toujours dans la musique, sur l'influence du jazz sur ton travail et notamment même sur la manière dont c'est mis en page, les mises en page un peu originales.
Alors les mises en page, c'est Grumpf, de même que les illustrations. Hein.
Est-ce que les polices d'écriture, c'est lui aussi
Oui, on a travaillé ensemble là-dessus, en fait. Maintenant, moi, je suis pas, j'y connais rien en maquette, voilà, tout ça. Moi, mon truc, c'est vraiment le langage. Ouais. Donc c'est lui qui a fait les choix de maquette. On a réfléchi ensemble la couverture, et puis comme on partait du principe que que ça allait être le premier volume d'une collection, on a soigneusement réfléchi aussi dans la perspective de volumes ultérieurs.
Bon, les illustrations.
Pour avoir une ligne graphique qui permette de bien identifier la collection.
Voilà, donc on a des illustrations de LG, hein, donc vous connaissez, j'imagine, chers auditeurs, son style. Là, on essaie vraiment très très fidèle à son style avec des lignes en fait continues. Tout en noir et blanc, donc c'est superbement illustré, et donc les illustrations ont évidemment toujours un rapport avec ce qu'on est en train de lire.
Mais c'était pas évident, hein, justement, la démarche illustrative, ça n'a pas été simple.
T'as hésité, en fait ?
Non, du tout, pour moi, c'était une évidence. Et c'est pour lui que ça n'a pas été évident, parce qu'il a l'habitude d'illustrer ce qu'il fait lui-même, surtout, de plus en plus. Donc, il a fallu réussir à trouver un trait qui lui semble satisfaisant pour illustrer les textes. Et il a beaucoup tourné et viré dans tous les sens, à faire plein d'essais, et ça lui convenait pas. Jusqu'à ce qu'il se trouve ce cadre qui est fait un petit peu scène de théâtre.
Ouais.
Et qui convient très bien pour parler de choses qui sont très très diverses.
Les illustrations sont absolument géniales et assez indescriptibles au micro, en fait. C'est comme s'il y avait plusieurs illustrations et plusieurs scènes dans un même cadre. Il y a des indices aussi qui sont laissés pour le récit dans certaines illus. On voit qu'il a laissé des...
Ça, c'était une idée qui me plaisait. J'avais vu ça dans un album pour enfants, je lui avais montré. Ce serait bien qu'il y ait... Enfin, pour moi, l'illustration du texte n'est pas là pour représenter le texte. C'est quelque chose en plus.
C'est une interprétation
du texte.
C'est vraiment bien réussi de ce côté-là.
Et c'était vraiment l'optique.
Donc du coup, l'influence du jazz, moi j'y pensais parce que en fait c'est pas, comment dire, j'allais dire c'est pas propre, mais c'est pas ce que je veux dire, c'est pas uniforme, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. C'est pas les, par exemple, certains personnages vont parler avec des polices d'écriture différentes.
Oui, bah j'ai fait ça quand on se retrouve avec des personnages qui sont dans une situation de dualité, en fait.
J'ai bien aimé aussi le fait que certains dialogues soient présentés comme des scènes de théâtre, tandis que d'autres sont présentés de façon canonique. Ce jeu, en fait, avec les styles et la mise en page, en fait, d'une manière générale, je trouve, aide franchement à la compréhension du récit et à comprendre, en fait, à quel niveau de fiction on se place.
Oui.
Est-ce qu'on est dans la tête d'un personnage ? Est-ce qu'on est sur une marche autre que la marche initiale, etc., etc. Et donc ça, j'ai trouvé ça assez intéressant.
Moi, ça, là, pour revenir à ta question précédente, là, en revanche, effectivement, les différences de police de caractère, ça, c'est moi qui l'ai décidé. Mais dès que j'ai commencé à écrire, en fait, c'était évidence.
M'en suis douté.
Parce que je me suis dit que ce serait pas clair, sinon.
Excellent, excellent. Donc, tu classerais ton livre dans la littérature ou dans la poésie ? Moi, je le trouve plus poétique que littéraire, en fait.
À cheval.
Alors, regarde, tu réfléchis sur les sons.
Oui.
Sur le caractère onirique, il y a quand même quelques poèmes aussi dans le livre, des rimes bien choisies dans les phrases. moi, ça me fait plus penser à de la poésie. J'avais plus l'impression de lire, en fait, des contes poétiques que vraiment une littérature où on se soucie. Enfin, je sais pas.
Oui, non, mais c'est pas étonnant parce que les premiers textes que j'écrivais quand j'étais petite, c'était des poèmes.
Et en plus, cette interprétation est facilitée par le fait que moi, je connais pas du tout l'univers des Mille Marches. Mmh. Donc, il y a des moments où tu parles de trucs comme si c'était évident, des faux moirés, par exemple. C'est quoi un faux moiré?
Bah, ça vient de la mythologie celtique aussi, en fait. Ça fait partie des peuplades qui se sont battues.
J'étale mon manque de culture totale.
Mais non.
À tous les auditeurs, voilà. Oui, non, je ne suis pas très cultivée.
Mais non, mais voilà.
J'ai
mais
fait
après.
Bonnes analyses, mais voilà.
Voilà, tout à fait. mais ce que je donne, c'est il faut chercher, en fait. Alors, j'aime pas tout expliquer quand j'écris. C'est, j'aime bien que le lecteur, que le diligent lecteur suive les fils s'il a envie de les suivre.
Ah, tu vas faire plaisir à ma Natacha, là, parce que moi, donc, à la cellule, on a notre spécialiste littérature qui est
d'accord.
Natacha, qui, elle, a de la culture, contrairement à moi, et donc elle dit exactement ça.
Elle a dû lire Montaigne, alors.
Ah oui,
ce n'est pas moi qui perds mon sujet, c'est l'indiligent lecteur.
Excellent. Alors là, c'est tout à fait le genre de choses qu'elle pourrait citer, en effet. Alors, je me suis posé des questions sur les musiciens qui sont présents à l'intérieur du conte. Qui est la femme à l'éventail ?
Eh bien, c'est un hommage à plusieurs choses, en fait, parce que j'aime bien mélanger. Après tout, il paraît que le propre de l'imagination, c'est d'associer de manière inédite des choses préexistantes.
La chimère de Descartes.
Voilà. Donc, c'est le cas pour ce personnage. C'est un mélange de Lisa Gérard et puis d'un personnage que j'avais vu dans un film qui s'appelait La dernière chanteuse de Pansori, un film coréen, sur le chant traditionnel Pansori, qui est vraiment très très beau. Ah. Sachant que ce personnage de chanteuse, Maria van Koonen, existait, a très vite existé, parce que Grumpf a vu le film aussi, il écoute Dead Can Dance aussi, donc ce personnage fait partie de l'univers d'Europa tel qu'on l'a constitué il y a bien longtemps.
Excellent, ok, d'accord. Donc c'est bel et bien un personnage de...
Oui, c'est un personnage secondaire, hein, c'est un personnage de décor, si on veut.
Bien sûr, ouais. Et l'homme aussi ont entrelacé à la vieille électrique. Est-ce que tu t'es inspiré ça. L'homme, tu sais, qui a des sillons sur la peau entrelacés et une vielle électrique.
Oui, alors là, c'était intervient. Un mélange aussi de Dennis Prigent, de Robert Smith, et puis de Nightcrawler, enfin un Diablo, dans les films récents, là, de X-Men, le fait qu'il ait la peau gravée.
Ah oui, d'accord.
J'ai trouvé ça très, très beau, je trouvais ça très joli, et puis les entrelacs, à cause des entrelacs celtiques.
Mmh,
et
d'accord.
Puis imaginer effectivement une créature. J'ai vu Dennis Prigent en concert il y a longtemps et j'étais surprise parce que j'ai découvert que c'était un tout petit bonhomme.
Ah oui, tu t'attendais.
Ouais, j'ai trouvé de quelqu'un de plus grand, mais avec beaucoup de présence et tout sombre, tout en noir. Alors, je sais pas comment il est maintenant. Hein, ça fait longtemps que je l'ai pas revu. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était une présence très particulière. Et puis. Comme je te disais, hein, prendre la réalité et puis rajouter des choses un peu différentes. Donc voilà, je vais rajouter quelque chose d'extrêmement celtique des autres là.
D'accord, ok. En tout cas, j'ai bien kiffé essayer de retrouver en fait. Tu vois, moi, j'avais pas vu la playlist à la fin. Je me suis dit, c'est sûr, elle a écrit ça en musique.
Oui.
D'accord. Je me suis dit, ok, je vais essayer de retrouver les gens.
D'accord.
Tu vois, et donc, du coup, je me suis amusé comme ça à essayer d'identifier. Donc, c'est pour ça que je te pose des questions. Puis à la fin, en fait, j'ai vu qu'il y avait carrément la réponse aux énigmes, aux questions.
Oui, après, je n'ai pas tout mis, hein, mais j'ai mis ce qui me semblait essentiel.
Excellent, excellent. Alors, s'il fallait dresser des grandes lignes à travers les trois contes, est-ce qu'il y a des points communs entre ces trois contes ou pas?
Ce sont trois histoires d'amour, quand on regarde bien.
Oui.
À chaque fois, pour moi, le personnage le plus important, c'est le personnage féminin.
Donc, ok, ouais, très bien.
Et.
C'est de les identifier tous en même temps.
Oui, et il y a toujours une histoire de fusion qui traîne quelque part.
De fusion entre les êtres.
De fusion entre êtres. Alors, c'est pas forcément entre l'homme et la femme, mais il y a une fusion. Après, pourquoi, j'en sais rien. C'est venu comme ça. Et puis, comme je te l'ai dit, les trois nouvelles n'ont pas été constituées ensemble. C'est venu au fur et à mesure des années. J'ai dû mettre une dizaine d'années à les écrire, en fait. L'une après l'autre. Et au départ, c'était très détaché. La première, quand je l'ai écrite, je ne pensais pas en faire d'autres après. C'est venu ensuite. Et pourquoi trois contes européens? Parce qu'il y a déjà trois contes de Flaubert.
D'accord, ok.
Et le dernier conte est arrivé, effectivement... Là, avec l'intention claire de vouloir faire un triptyque. Mais les deux autres, ce n'était pas le cas.
D'accord.
C'est venu au fur et à mesure.
Est-ce qu'en extrapolant un peu, en faisant de l'analyse à deux balles, parce que moi j'adore faire des analyses à deux balles, est-ce qu'on ne pourrait pas en fait y voir ton histoire avec LG, en fait, quelque part?
Pas seulement.
C'est-à-dire, en fait, tu es un personnage... des mille marches, en même temps créatrice, tu vois, des mille marches. Et en fait, toujours, les personnages qui fascinent l'héroïne amoureuse, on va dire, ou le héros amoureux, c'est des personnages qui viennent d'un monde imaginaire. Et toi, en fait, tu viens de la réalité prosaïque, tu vois, quelque part. Et tu vois, on pourrait exagérer en disant, le Grumpf t'emmène, tu vois, dans son univers magique.
Ça colle pas pour la deuxième, c'est l'inverse.
Alors vas-y, donc pourquoi alors pour la deuxième?
Parce que dans la deuxième, c'est le type qui est normal.
Oui, c'est vrai.
Et c'est la fille qui vient d'ailleurs.
Oui, c'est vrai. C'est un échange de toute façon. Mais...
Oui, mais non, c'est plus large que ça. C'est très personnel, ça c'est clair, c'est de l'écriture très personnelle. Je ne parle que de moi dans ce recueil.
Je ne connais pas d'auteurs qui savent parler d'autres,
voilà.
D'autres personnes.
Je ne fais pas d'autofiction, c'est tout.
oui, c'est tout à fait, ouais. Il y a quelque chose aussi que j'ai retrouvé dans tous les... Alors, est-ce qu'il y a d'autres points communs déjà, avant que je te livre ceux que j'ai trouvés moi?
Alors après, je n'ai pas beaucoup analysé ce que j'ai fait moi-même, mais j'ai eu des retours des gens qui m'ont lu, donc c'était assez drôle.
Alors, quels ont été ces retours ?
Alors, les retours les plus... Comment dire ? Les gens qui ont le plus apprécié n'étaient pas forcément les rôlistes, ou les gens qui ont l'habitude de lire des littératures de l'imaginaire. Je préfère prévenir. Parce que justement, certains ont trouvé que l'écriture n'était pas facile d'accès. Ne serait-ce que la quatrième de couverture, je sais que ça en a refroidi certains.
Et pourtant...
Très poétique, justement. Peut-être.
Moi, je l'ai lu à la fin, en fait. J'ai même pas lu la quatrième... Je me rends compte que j'ai lu la quatrième de couverture à la fin, après avoir lu toutes les nouvelles. Et du coup, en fait, j'ai tout compris, tu vois, la quatrième de couverture.
Mais voilà, ouais. Donc, ça peut dérouter. Après, quand on dit littérature de l'imaginaire, quand on pense fantaisie urbaine, on a un certain nombre d'images et de textes dans la tête, et c'est pas forcément ça que je propose non plus. Je n'explique pas tout, loin de là. Lance des pistes et débrouille-toi, lecteur, parce que j'ai envie que le lecteur soit actif, en fait. Je veux pas tout donner parce que j'ai pas envie de faire un guide touristique.
Alors ça,
ça te parle.
Alors oui. Parce que c'est justement, moi, un des défauts que j'ai trouvé à ton travail, c'est que pour quelqu'un donc, qui ne connaît pas... Alors moi, tu vois, c'est bien parce que je t'ai pas chargé. Je me suis pas dit, c'est Anne qui me perd, tu vois. Je me suis dit, c'est les mille marches, tu vois. Je me suis dit, ouais, mais là, j'y connais rien aux mille marches, j'ai du mal à comprendre.
Non, mais c'est pas grave, en fait.
Voilà, je me suis pas dit... donc, tu vois, si j'avais su que c'était toi qui voulais me perdre, j'aurais été plus méchant. Mais là, vraiment, le truc, ça a été extrêmement difficile pour moi de comprendre parfois qui parlait, de quel point de vue, de quelle était l'origine des propos que je lisais, notamment dans la première nouvelle.
Oui, mais la première, c'est volontaire, clairement. D'ailleurs, c'est vraiment le but, c'est d'être au frange de la folie. Hein.
Voilà, uniquement dans la première nouvelle, en fait. Il faut être honnête, dans les deux autres, c'est beaucoup plus clair. Mais pour la première nouvelle, vraiment, j'ai galéré. Justement, tu vois, au terme de la lecture, je ne savais toujours pas qui était Delbès, finalement.
Oui,
tu vois.
Mais justement, on peut se poser la question, et puis c'est très bien de se poser la question. Enfin, moi, ça ne me dérange pas qu'il n'y ait pas de solution à la fin. On imagine ce qu'on veut.
Quels ont été les autres retours que tu as eus ?
Alors, les retours les plus positifs, c'était par, franchement, des gens purement littéraires. Des profs de français.
Des retours positifs,
Et des gens qui, notamment des gens qui n'étaient pas spécialement rôlistes, justement.
C'est vrai que c'est très... C'est très bien écrit. En fait, beaucoup de qualités que je n'ai pas, comme la simplicité, par exemple. Des phrases courtes, en fait, mais très, très, très profondes. Ça, j'aimerais bien savoir faire ça.
Ils ont accepté de se laisser porter, en fait. Mais parce qu'ils ont l'habitude aussi textes qu'ils lisent pour le boulot, quoi.
Je voudrais juste quand même donner un exemple de phrase courte qui m'a beaucoup plu. Par exemple, cette phrase « L'ovation du public est un bien souverain, mais on peut s'y dissoudre. » Il y a quoi ? Il y a combien de mots, là ?
Je sais pas.
10 mots ?
D'accord.
Je vous laisse ça en réflexion. L'ovation du public. Alors, je sais que la cellule est beaucoup écoutée par des auteurs de jeux, etc., qui, comme moi, s'aiment beaucoup et aiment beaucoup ce qu'ils font. Et je trouve que cette phrase nous parle tout particulièrement. L'ovation du public est un bien souverain, mais on peut s'y dissoudre. Il y a tout là-dedans. Ça me fait penser à Amadeus. Le film de Milos Forman, lequel justement Salieri explique à Mozart qu'il n'est pas assez, que sa musique n'est pas assez claire pour charmer le public viennois. Et donc en fait, alors Salieri qui lui a l'ovation du public, est très riche, vit très bien, mais dont les musiques se perdront, là où Mozart lui en fait n'est pas vraiment plébiscité par le public viennois et justement devient le génie qu'on connaît, etc. etc. Oui. Et donc j'ai beaucoup pensé à ça, on peut s'y dissoudre. Sous-entendu, si on fait les choses pour plaire à un public,
on peut s'y perdre. Oui, tout à fait.
Et toi, donc, du coup, comment tu analyserais cette phrase ? Je l'ai bien analysée ou tu y ajouterais ta
question ? Non, mais l'interprétation, c'est la liberté du lecteur. Hein.
Toi, quelle est ton interprétation de cette phrase ?
Je me lis pas très bien moi-même. Mais non, mais bon... Si, on peut très bien le comprendre comme ça. On peut se dissoudre au sens où on perd en qualité artistique. Parce que justement, on n'est plus capable de se détacher de cette ovation et que ça devient une drogue. Ou on peut s'y dissoudre au sens où on devient fou, je pense, aussi. Ou il y a peut-être un éclatement de la personnalité qui peut se produire à force de vivre dans le regard de l'autre.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Mais la thématique de regard, c'est quelque chose qui m'a. Bah, ça, c'est plus dans la troisième nouvelle.
Alors justement,
que j'ai développé, mais c'était un thème important aussi.
Bah, moi, alors, bon, je te cache pas que ma nouvelle préférée, c'est la dernière.
Ouais.
C'est vraiment celle qui m'a le plus plu parce que je m'y reconnais.
D'accord.
Voilà. Donc, tu vois, cette phrase-là est tirée de la troisième. Oui. J'en ai une autre tirée de la troisième aussi. Quand il y a de l'amour, il faut le faire.
Oui, oui, je me suis beaucoup amusée en faisant celle-là.
Celle-là, je l'adore.
Voilà.
Et ben voilà, c'est ça ton style. Je trouve que c'est deux phrases qui résument assez bien en fait ton style. Tu vois, c'est hyper court. Mais bah, c'est, tu vois, quand il y a de l'amour, il faut le faire. On pourrait passer quasiment un podcast de la cellule à analyser ça avec Fabien.
On m'a dit que j'avais le sens de la formule parfois.
Ouais. Hush now, don't explain. Just say you'll remain. I'm glad you're there. Don't explain. Fire, don't explain what is there to gain. Skip that lipstick, don't explain. What love endures, all my thoughts of you, for I'm so completely yours. Cry to hear folks chatter, and I know you cheat. Right or wrong, don't matter, when you're with me, sweet. Hush now, don't explain. You're my joy and pain. My life, yours, love, don't explain. Est-ce que tu vois les d'autres liens entre ces trois nouvelles? Est-ce qu'il y a d'autres thématiques qui traversent ce travail? Moi, j'en ai une dernière.
Là, comme
non,
ça,
comme ça tu...
non. Bah après, comme je ne l'ai pas constitué en me disant je vais faire un truc uni, forcément,
voilà,
avec des lignes de force.
C'est ça que je vais te poser comme question. Ouais. Donc en fait, tu attends les retours des lecteurs pour savoir ce qu'il y a dedans, quoi.
Oui, un peu. Moi, j'écris ce que j'ai en tête, ce que j'ai envie de mettre. Et puis, j'attends toujours qu'on me rende plus, en fait.
Tu n'as rien caché dans ton travail ?
Comment ça, rien caché ?
Je ne sais pas, des secrets.
Ah, si, bien sûr.
Des petits clins d'œil.
Ah, si, tout à fait. Mais aucun personnage n'est. Enfin. On parlait de réalisme tout à l'heure, et puis d'imagination aussi. Je n'invente rien à partir de rien. Mmh. Quand il y a des dédicaces, c'est pas anodin. Quand il y a des citations, c'est pas anodin. Mmh. Pour la première nouvelle, les citations que je mets de Denis Prigent, ces citations précises ont suscité des images mentales chez moi qui sont dans le texte, clairement. Pour les personnages, je me suis systématiquement inspirée de personnes que je connais, de manière transformée. Mais je fais toujours ça, en fait.
Mmh. Tu crées des chimères, c'est ce que tu disais
toujours,
tout à l'heure.
Ouais.
L'autre élément que j'ai vu transparaître dans tout le travail, c'est le rapport entre la grande histoire et la petite histoire, mm-hmm. entre la scène et les coulisses de la
oui.
scène, qu'on
mm-hmm.
retrouve dans mon truc. Alors ça, est-ce que tu peux nous en parler ? Pourquoi cette thématique ?
Parce que les Mille Marches, c'est un univers de jeu, c'est un univers d'aventure. Et ce que j'avais envie d'écrire, c'est ce qui n'est pas forcément de l'aventure, justement. Ce qu'il y a en fond de cours. Ce qui se passe en arrière-plan. Parce que dans les Mille Marches, il y a ce système des personnages principaux et puis des figurants qui sont autour, qui sont des chimères, qui peuvent exister temporairement tant que la marche existe. Et puis si la marche disparaît, tout s'évapore. Enfin, voilà. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de parler de ça. Par exemple, les changeurs ne sont pas des personnages qui peuvent être joués. Ils ne peuvent être que des PNJ. Ils sont en dehors des histoires. Donc, ce qui m'intéressait, c'était de parler justement de ce qui ne peut pas faire une partie.
Ah oui, d'accord, ouais. On ne peut pas les jouer, donc du coup, ça t'intéressait de raconter leur histoire.
Ben voilà, parce qu'ils existent malgré tout dans le monde.
Au-delà de ça, il y a aussi un côté... le héros, on raconte toujours effectivement l'aventure, donc ce qu'il fait d'héroïque.
Voilà.
Mais on raconte pas ces moments où ben il est tout seul au bar d'un
café. Au bar
café
d'à côté.
Et voilà.
Ou on raconte pas l'histoire de la fille qui est en train de prendre un café à côté de lui pendant qu'il est en train d'attendre son contact pour aller taper le grand méchant qui est dans la tour Trucmuche et voilà quoi.
Ouais.
Sauf que la fille qui prend son café à côté, il lui arrive des trucs dans sa vie aussi.
Est-ce que
la
tu
barmane,
aimes
hein.
le roman noir un petit peu ou pas du tout?
Quasiment pas, parce que j'ai du mal avec le style d'écriture du roman noir. J'ai essayé, mais ce qui m'a rebuté à chaque fois, c'est que bien souvent, je trouve que c'est écrit avec un style très relâché. Enfin, c'est-à-dire un niveau de langue familier, etc. Parce que c'est la couleur du roman noir qui est souvent comme ça.
D'accord, ouais.
Bon, c'est, voilà, c'est des choix stylistiques, mais moi, ça me convient pas, en fait. Donc, les seuls romans les plus noirs, si on veut, que j'ai pu lire, c'est du Zola. Quelque part, pour moi, Zola, c'est du roman noir. Hein. Tu prends le premier volume d'Hérougon-Macquart, ça finit avec un flic qui colle une balle dans la tête d'un innocent, quand même. À bout portant.
Ouais,
enfin, un gendarme, je crois. Pour moi, c'est du proto-roman noir, pour moi, Zola.
Complètement. On suit des fous, parfois, dans La Bête humaine, par exemple, et puis du roman noir aussi par les
par
couleurs.
Par la satire sociale, la critique sociale, ce qui est très
évoquées,
très forte.
Hein, quand t'évoques Germinal, t'évoques le charbon, t'évoques le noir, tu vois. Ça,
ouais,
c'est
et puis le roman noir, ça a une valeur de critique sociale, et puis de tréfonds psychologiques aussi.
Justement, je me suis posé la question de savoir. Tu vois, je m'attendais pas du tout à cette réponse. Attendez que tu me dises, bah ouais, si, j'adore, etc. Mm. Parce que les phrases courtes, alors c'est vrai, t'as raison, effectivement, ton style littéraire, c'est pas du langage parlé.
Non.
Mais...
On fait illusion, mais ce n'est qu'une illusion.
Voilà, c'est ça. C'est...
Ouais, profondément conscience de faire de l'illusion. Hein.
Puis tu vois, à partir du moment où tu travailles dans des cafés, ça évoque forcément le
roman. Oui, tout de suite, ça suffit, en fait. Moi, j'aime bien donner juste des petites touches, et puis, encore une fois, le lecteur se débrouille, il imagine ce qu'il veut, et c'est très bien comme ça.
Quelles sont tes ambitions pour Chibistory, justement? Alors, j'imagine, bon, tu sais, il y a quand même quelques auditeurs qui nous écoutent, certains éditeurs aussi, certains créateurs, certains auteurs de jeux.
Mmh.
J'imagine qu'il y a pas mal de gens qui voudraient éventuellement passer sous ta patte éditoriale. Alors, qu'est-ce que tu conseillerais? Qu'est-ce que tu recherches comme type d'histoire? Et puis, à travers je pense, en répondant à cette question, tu vas aussi répondre, en fait, à la question que je te posais précédemment sur ce qui traverse, en fait, tous les contes.
Alors, pour l'instant, on a des choses dans les tuyaux, comme on dirait.
Ah d'accord, donc t'as déjà des manuscrits dans les mains.
Oui, et y en a un qui va être un recueil de poèmes, mais de poèmes écrits dans un donjon. Donjons et dragons. Hein.
Littérature interstitielle.
Complètement, donc on est complètement là-dedans. Et mais bon, on est très très lent dans la mise en place avec Grumpf. Et puis bon, je ne vis pas de ma plume.
Vous n'avez pas beaucoup de temps.
Assez clair, on court après le temps, c'est l'horreur.
Vous êtes lent, c'est que vous n'avez pas beaucoup de temps.
Et puis moi, je suis pas rapide déjà quand j'écris. Hein, tu vois, 10 ans pour prendre un truc avec 3 nouvelles, franchement.
Oui, enfin, t'as pondu plus que des nouvelles en 10 ans. T'as fait beaucoup.
Oui,
de
j'ai fait d'autres choses, mais bon, voilà. Et il y a encore un autre texte dont je ne veux pas trop parler pour l'instant parce que j'attends que Grumpf en ait fait le tour aussi, parce que j'aimerais bien qu'il continue le système des illustrations, justement. Enfin, c'est quelque chose qui nous intéresse, d'avoir des textes qui sont illustrés. Je ne vois pas pourquoi il n'y aurait que les enfants qui auraient des livres avec des images dedans. Les adultes aussi, que diable.
Pourquoi ouais, donc en fait, c'est vraiment une édition de romans, de nouvelles, ou en tout cas de littérature ou de poésie, liée au jeu de rôle.
Oui.
Aux univers.
On gravite à l'heure actuelle essentiellement avec des rôlistes et des créateurs de jeux de rôle. Effectivement, là, d'accord. Les deux textes qu'on a en chantier, si je puis dire, ce sont par des auteurs de jeux de rôle. Qui sont auteurs aussi à côté, auteurs de jeux de rôle, mais aussi auteurs de littérature.
D'accord, ok.
Parce que c'est quand même deux manières d'écrire qui sont très différentes. Hein. Écrire de jeux de rôle, c'est pas écrire de la littérature, inversement. Moi, je suis incapable d'écrire un jeu, par exemple.
Je suis désolé de te poser cette question, mais c'est une question vraiment... combien est-ce que tu en as distribué, vendu en ce moment, t'en as eu là ?
Rien du tout, vu qu'on n'a fait aucune promo, il y a dû y en avoir une cinquantaine.
Ah, une cinquantaine ?
Ouais.
Ah, j'imaginais quand même un peu plus.
Non, mais on n'a pas le temps de faire de promo, et puis sur Lulu, il faut savoir que ça existe.
Ouais.
Voilà.
Donc, très bonne question, comment est-ce que tu fais la promotion de ça ? Mis à part en inventant Romaric Boyant à manger.
Grumpf a envoyé des exemplaires avec son service presse, par exemple. On a fait la promo sur Facebook, sur le forum Cassius No. J'ai même envoyé un exemplaire à Motocultor. parce que je les aime bien. Et puis à France Musique aussi, parce que voilà, la musique classique, on a compris, c'est aussi un de mes grands trucs.
Ouais.
Mais non, là-dessus, on n'est pas bon, on n'est pas doué, et puis on n'a pas le temps.
Je te dis.
Et puis on est hors circuit traditionnel puisqu'on fonctionne avec Lulu.
Alors voilà, ça c'est un problème. Et est-ce qu'il y a moyen de faire imprimer des livres et de les distribuer dans des boutiques quand même ? Dans ces cas-là, c'est impossible.
J'en ai aucune idée, franchement.
Ouais, ouais.
C'est plus Grumpf qui s'occupe de cette partie-là. Ouais,
faudrait se renseigner là-dessus, voir si pour Lulu. Ouais, je sais pas comment ça marche avec Lulu là-dessus. S'ils peuvent faire des prix, tu vois, pour les distributeurs ou pour les librairies. Et notamment, je te dis, là, ça, je verrais très bien ça dans les rayons de Caribbe, sauf erreur, mais. Bon, voilà, ok. Eh bien, écoute, donc là, du coup, donc, si je résume un petit peu, les textes que tu recherches en ce moment pour cette collection, ce seraient des textes de littérature interstitielle, on va dire, sur le autour du jeu de rôle.
Autour du jeu de rôle ou pas, enfin, c'est
publier,
pas une obligation. Hein.
Tu pourrais publier Anne Rice si elle disait que ça s'inspirait de White Wolf, quoi.
Non, pas forcément. Non. Je la choisirais si son écriture me plaisait.
Or, ce n'est pas le cas, apparemment.
Eh bien, j'ai été très déçue par les 200 premières pages de sa trilogie sur les sorcières Mayfair. À l'époque où je l'ai lu, il y a fort longtemps, j'ai été très agacée, je trouvais ça très lent, je trouvais que c'était écrit avec les pieds. Après, c'était peut-être la traduction. Le fond est très très bon. Mais c'est trop long, Anne Rice. Pour cette collection, c'est trop long. On veut du petit, on veut du court, on veut trancher.
Ah bah tu vois, ça c'est bien de le préciser aussi.
Voilà, c'est aussi en réaction justement aux réponses de certains éditeurs sur cette histoire du format, de la taille, du volume et du fait que ce soit des textes courts et que trouver une place sur les rayonnages des libraires pour des textes courts, ça va pas de soi, encore une fois, en France. Parce que le lectorat français, il va, semble-t-il, moins volontiers faire du format court, quoique je pense honnêtement que ça se discute. Que vers du format roman 350 000 signes, voilà quoi. Donc non, on cherche aussi des choses courtes, et quand on dit qu'on tranche, par exemple avec l'un des textes, en tant que directrice de collection, je mets le nez dans le cambouis. C'est-à-dire qu'on discute de l'écriture. Donc il faut y être prêt aussi.
Ah oui, d'accord, carrément.
Mmh. Mais c'est ce que j'ai connu aussi quand j'ai été publiée, alors c'était chez un autre éditeur, il y a 15 ans de ça, mes premiers bouquins publiés, le directeur de collection avait un point énorme dans l'écriture.
Il t'aidait vraiment à écrire, quoi.
Ouais, ouais, à réécrire des passages entiers. Et même une fois, j'ai dû réécrire un bouquin entier, parce que ça ne convenait pas finalement à ce qu'il fallait.
Et tu l'as vécu comment ?
Et comment ?
Tu l'as vécu comment ?
C'était douloureux, c'était instructif. Mais c'était du jeunesse et j'en ai conclu que j'étais pas faite pour le jeunesse. Parce qu'après, quand j'ai publié de l'adulte, une nouvelle adulte dans un recueil, la nouvelle avait été prise clé en main directement, juste en une poilouchenette à changer à la fin et puis clac, terminé. Quoi.
Et quels étaient ses arguments pour te contraindre à réécrire ? Bah, moi, je sais que enfin, ça m'est arrivé une fois. Ça m'est arrivé sur Sens Néant, sur un de mes, mes sens où j'ai été obligée de reprendre toute l'écriture du livre. Parce que donc c'était pas un éditeur, mais c'était un relecteur qui m'a dit, c'est enfin une relectrice en l'occurrence.
Alors pour la réécriture entière du volume, c'est parce qu'en fait au départ je pensais que le contrat était sur 6 volumes, et en fait non, c'était sur 3. Du coup le rythme, au niveau de la structure complète du cycle qu'il fallait tout reprendre.
Ah oui, d'accord, ok.
Donc là il y avait pas le choix, il fallait que je modifie tout en intégralité. En revanche sur vraiment le travail stylistique, c'était beaucoup de j'ai vécu ça comme des simplifications en fait.
Et toi-même tu disais mais oui mais bien sûr quoi. Enfin à la fin tu te disais pas tu t'es pas dit ah mon Dieu il a perverti mon travail.
Je me disais pas ça, je me suis pas dit ça, mais j'étais frustrée quand même de pas, enfin il y a des moments où j'étais ben si cet adjectif là il me plaisait bien, c'était celui-là que je voulais mettre, et puis ben non, comme c'était du public jeunesse qui était visé, hein, c'est du 10-12. Mais on pourrait discuter beaucoup de la manière d'écrire pour la jeunesse aujourd'hui. Hein. Franchement, tu jettes un œil dans les volumes de collection ado-adulte, sujet, verbe, complément. Hein.
Ouais, d'accord.
Oui, et puis en termes de vocabulaire, on va pas trop loin. Hein.
Tu trouves qu'ils infantilisent beaucoup les enfants ?
Oui, les lecteurs, la tranche d'âge qu'ils prétendent cibler. En tout cas, après, dans les faits, il faut voir si c'est effectivement cette tranche d'âge-là qui lit ou pas. C'est encore autre chose. Mais
t'as raison.
Il y a quand même... moi, ça pose question. Quand on lit Le Club des Cinq d'il y a 30 ans et qu'on lit ce qui est proposé à la même tranche d'âge aujourd'hui, il y a une différence très nette. Tu prends La Comtesse de Ségur, fais-la lire à une vraie petite fille de 10 ans aujourd'hui. Ça va pas de soi pour plein de petites filles.
Tu trouves qu'on a été trop loin dans la simplification ?
Oui. Ouais. Moi, je trouve, ouais, on les prend pour des cons, hein, franchement. Après, comment tu veux leur faire lire du Flaubert alors que c'est génial ?
Tu penses que l'éducation à la littérature vient d'abord par la littérature pour enfants ? Et donc, comme on a
la première entrée, c'est censé être celle-là quand même, souvent. Majoritairement, c'est la lecture qu'on partage avec les parents, c'est les parents qui lisent des trucs le soir, et puis des textes qui sont proposés, et si on leur propose des trucs archi simples, alors là, c'est parce que j'ai un boulot qui me fait vivre à côté, ou je suis en contact avec une tranche d'âge 15-18 qui a des difficultés de lecture récurrentes, et qui n'a pas conscience de ce que c'est qu'une littérature qui parle de l'être humain en long, en large et en travers, telle que la littérature que moi j'aime le plus, qui est la littérature générale.
C'est intéressant aussi de te découvrir un petit peu, tu vois, de laisser...
Quand je te dis que c'est un manifeste, ça, et j'avance masqué. Hein.
Alors, et pourquoi ? Alors, c'est vraiment ça, pour vivre heureux, vivons cachés, c'est la dernière phrase du bouquin.
Tout à fait.
Mais pourquoi tu dis j'avance caché, etc. Quel est ton propos ? Qu'est-ce que tu veux faire, en fait ?
Parce que j'aime pas m'exposer. Trop directement, déjà.
D'accord.
Entre mon boulot,
c'est une épreuve d'être avec moi là.
Voilà.
Non, mais c'est vrai, et ça explique aussi le défaut de communication.
Oui,
en fait.
Sans doute.
Ouais. Non, mais bien sûr.
J'ai besoin d'être lue, mais je sais que je suis pas facile à lire, donc j'ai pas envie de. J'aime bien la phrase de Stendhal, "To the happy few".
Que tu traduirais par comment ?
Aux heureux élus, aux quelques choix élus, aux quelques personnes d'élection, à l'heureux petit nombre. Bon, il paraît que ça vient de Shakespeare en plus.
D'accord, ouais.
Mais j'ai pas pour ambition d'être lu par tout le monde parce que je sais très bien que ça collera pas avec plein de gens.
Ouais.
Donc j'ai fait mon deuil de ça, parce qu'on peut aussi s'imaginer ça, hein, quand on a 25 ans et qu'on commence à publier, qu'on va être lu par plein de monde et que ça va être chouette. J'ai fait des rencontres avec le public que j'avais à ce moment-là, qui était un public jeunesse. Ça a été...
ouais, je pense que...
une drôle d'expérience.
Tu déchantes. Hein.
Bah, je me suis sentie en décalage, en fait. C'est surtout ça, ils n'étaient pas méchants, ils étaient mignons, tout ça, mais je sentais bien que je n'étais pas raccord avec ce public-là, quoi. Ils étaient tout choupis, hein, mais quand t'as un groupe de sixième qui te dit bah alors si vous étiez un animal, pas un animal, un être merveilleux, un être imaginaire, qu'est-ce que vous auriez aimé être? Et j'aurais répondu un dragon. Il y a eu un blanc terrible. Je me suis dit qu'ils avaient certainement dû imaginer autre chose.
Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Alors que quand on te connaît, en fait, c'est pas choquant.
Non, mais eux, voilà, je sais pas ce qu'ils s'étaient imaginés, les pauvres petits bouts de choux, en lisant mon bouquin, et puis en voyant mon nom sur la couverture, il y avait une photo au dos et tout, enfin voilà, quoi. Et, mais clairement, ils s'attendaient pas à ça.
Cette réponse-là.
Donc ça m'a un peu refroidi et je me suis dit que décidément, la jeunesse, c'était pas pour moi. Et que voilà, pourtant, il fallait que j'écris pour.
Et pourtant, tu fais remarquer que la littérature, ça commence en jeunesse, quoi.
Ouais.
Mais tu veux que d'autres fassent le travail.
Ouais, parce que.
À ta place.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est mon côté feignasse. Non, mais enfin, c'est surtout que j'ai été très contrainte justement pour écrire ces trois bouquins-là, et que ça m'a pas plu d'être contrainte à ce point-là.
Ouais.
Et même si c'est sympa de rencontrer ces petites têtes et tout ça, et de parler de bouquins et de recevoir des trucs, parce qu'ils sont mignons, ils font des trucs, ils font des dessins et tout ça. Enfin, c'est très touchant, mais il y a une communication qui est difficile à établir pour moi. Mmh. Avec ce public-là, j'ai pas les clés. Moi, je leur balancerais bien. Enfin, ça tout de suite, quoi. C'est, voilà, moi, c'est allez, on y va.
Quand tu fais du jeu
t'as un cerveau,
avec...
vas-y, quoi.
Ouais.
C'est un peu trop dur pour ce public-là, je pense.
Quand tu fais du jeu de rôle avec tes enfants, j'imagine que tu...
Très peu.
Tu vas direct aussi dans les... au niveau du contenu.
Ben, alors, je ne leur maîtrise pas de parties. C'est Grumpf, plutôt, qui maîtrise des parties. On joue pas tant que ça, en fait. On a plutôt attendu qu'ils grandissent. L'aînée, de temps en temps, elle aime bien jouer. La cadette, elle est plus jeu de plateau, elle, en fait. Elle n'est pas très jeu de rôle. Elle est plutôt jeu de plateau, jeu de figurines. Elle a besoin d'avoir les choses dans les mains pour se représenter ce qui se passe. Et voilà, ça lui plaît plus.
D'accord. Ouais.
Parler tout le temps, ça l'amuse pas, elle a pas de plaisir. Et par contre, le Benjamin, qui a 11 ans, là, lui, le jeu de rôle, ça l'intéresse beaucoup. Mais c'est pas moi qui fais l'effort, c'est Grumpf.
Non, je te dis ça parce qu'une fois, en faisant du jeu de rôle avec des enfants, moi, j'étais parti en mode... fait une campagne, quoi,
là,
normal, quoi.
Ouais.
Voilà, c'est ça. Puis alors, il y avait toutes les thématiques que moi j'aime bien, héroïque et compagnie. Et donc, il y avait une maman qui m'avait fait une remarque en disant, voyons, c'est peut-être un petit peu tôt pour aborder les questions que tu abordes et tout. Et je lui faisais remarquer que c'était pas moi qui... En l'occurrence, c'est parce que son fils jouait un personnage qui avait tué son père.
Ok.
D'accord ?
D'accord.
Et je lui faisais remarquer que c'est pas moi qui lui ai proposé cette histoire, que c'est lui-même, en fait, qui a trouvé cathartique de
okay,
faire ça.
Ok, oui.
Mais donc, tu vois, quand tu fais jouer des enfants, tu te rends compte qu'en fait, du point de vue de l'imaginaire, ils sont gore, parfois même
oui, bien sûr.
Plus... Ils sont même plus trash et plus hardcore que toi, tu vois ce que
oui,
je veux
dire. Oui, tout à fait. Mais par rapport au lectorat, c'est pas sur le contenu, en fait. Enfin, sur le contenu, il y a des fois, c'est pas terrible non plus. Mais c'est vraiment sur le style.
Ah,
sur
oui,
l'écriture
okay.
pure.
Sur l'écriture.
Mon propos, c'est l'écriture. Hein.
D'accord, ouais.
C'est pas sur les contenus, le fait d'être trash et tout ça, c'est... nous, ça me pose aucun problème. Non, non, c'est sur l'écriture que j'étais extrêmement frustrée dans ce que j'ai écrit.
Oui, bien
c'est
sûr.
De devoir refaire ces phrases, de devoir simplifier à l'extrême, de pas pouvoir s'autoriser trop de métaphores ou de comparaisons, enfin voilà quoi.
Ah bah alors que là, les trois contes européens, c'est... Je veux dire, c'est que de la métaphore.
Mais
en fait.
Oui, mais moi, c'est voilà, c'est un. Mais c'est comme je te disais, c'est pas le réel qui m'intéresse, c'est un certain regard sur le réel. La métaphore, c'est un certain regard sur le réel par le langage.
Et puis, c'est un jeu avec les mots, et donc, comme
bien
tu
sûr.
Le dis très bien, c'est au lecteur de trouver son chemin.
Voilà.
Et là,
puis,
c'est presque un livre dont le lecteur est le héros, finalement.
Oui. Voilà. C'est l'important, c'est qu'il interprète, et il y a pas de mauvaise interprétation. Enfin.
Thank you.
projet, c'était de mélanger littérature de l'imaginaire et puis littérature blanche, littérature générale.
Alors, qu'est-ce que c'est,
dans le recueil,
ça, littérature imaginaire?
Alors les littératures de l'imaginaire, c'est ce qu'on. Alors en fait, c'est pas comme moi. Hein. En fait, c'est dans les études littéraires et puis même dans le paysage éditorial littéraire tel qu'il existe. T'as quand même des, on va dire, la littérature est un continent avec plein de pays.
D'accord, ouais.
Et t'as un pays ou un groupe de pays qui s'appelle la littérature générale et un autre groupe de pays qu'on appelle aujourd'hui les littératures de l'imaginaire. C'est pas pour rien si c'est au pluriel, à mon sens. Mmh. Sauf que ce qu'on range dans la littérature dite blanche, c'est la littérature patrimoniale française, par exemple, la littérature consacrée, la littérature plutôt réaliste, les courants actuels de l'autofiction, par exemple. Tout ce qui a des prix littéraires comme le Goncourt...
Alors, qu'est-ce que
le Renaudot, etc.
Juste rapidement, l'autofiction.
L'autofiction, c'est quelque chose qui a été formulé au cours des années 90. Après, je ne suis pas spécialiste du domaine, hein, mais c'est un type de texte où l'auteur fait et ne fait pas une autobiographie. Il se prend lui-même, mais il en fait un mélange plus ou moins fictionnel, mais c'est tiré très fortement de lui. Il y a quelque chose de l'ordre de l'intimité exposée.
D'accord. Ouais.
On va avoir Catherine Millet là-dedans, par exemple. Pour autant que je sache, je crois que Christine Angot aussi. Après, encore une fois, je ne suis pas spécialiste. Mais tu cherches autofiction et tu verras que c'est quand même quelque chose de très très prégnant depuis les années 90, en particulier en France, dans la littérature générale.
Et donc ça, c'est de la littérature. Et en face, tu dis, il y a de la littérature.
Ce qu'on appelle aujourd'hui les littératures de l'imaginaire. Enfin, il y a par exemple un groupe d'éditeurs, c'est Mnemos, les moutons électriques, et puis... Ah, j'ai oublié le troisième. Flûte, ils sont trois pourtant. Bref, j'ai un trou.
Bragelonne.
Je ne sais plus si c'est Bragelonne ou un autre. Je ne voudrais pas dire de bêtises avec ces personnes, mais bref.
Ouais, je comprends.
Me semble qu'ils se sont regroupés sous le titre Les Indés de l'imaginaire. Tu as aussi le festival à Nantes, Les Utopiales.
D'accord, ouais.
Qui est en lien avec les littératures de l'imaginaire. Et en fait, ce qu'on range là-dedans, quand tu regardes, c'est ce qu'on appelait il y a 30 ans la paralittérature. Donc, la fantasy, le fantastique, la science-fiction, le polar, les romans à l'eau de rose.
Actu SF.
Ah, voilà, c'est ça.
Non, Mémos, Actu SF et les boutons électriques se regroupent.
Voilà. Donc, ce qu'on appelle. Et voilà, la formulation a changé. Le terme paralittérature, maintenant, est quand même tombé en désuétude dans les études littéraires. Parce que, enfin, quand j'ai fait des études de lettres modernes, hein, pour ne rien cacher. Et c'était le terme qui était utilisé quand j'étais étudiante. On parlait de paralittérature. Ou de littérature de genre.
Ah, d'accord.
D'accord.
Ça me parle plus déjà.
Voilà. Et donc, maintenant, on parle plutôt des littératures de l'imaginaire. Mais finalement, ça regroupe peu ou prou les littératures de genre.
Bah oui, oui.
Même si le terme imaginaire n'est pas faux, hein, dans l'absolu. Mmh. C'est vrai qu'il y a un clivage entre littérature ancrée dans le référentiel dans notre monde et puis celles qui ne le sont pas ou pas vraiment. Donc ce qui explique que, pour moi, ce que j'ai fait, c'est une tentative de mélange, plus ou moins, des deux. Parce qu'au repas, en réalité, c'est une sorte de miroir de notre monde actuel dans un quart d'heure, tout simplement.
Ou est-ce que ça vient pas juste d'un préjugé sur les littératures de l'imaginaire?
Non,
c'est pour des grands enfants, des geeks?
Non, quoi. Pas forcément, ça c'est en train d'évoluer. Maintenant, le fait qu'il y ait un clivage sur la relation au réel, ça, oui, tu lis les textes, c'est, tu les étudies, c'est clair qu'il y a une manière radicalement différente d'aborder le réel, cette question du réel. C'est-à-dire, la relation du roman, ou en tout cas du récit au réel, c'est un point fondamental. C'est pas le cas dans la poésie. La poésie, c'est autre chose. Le théâtre, ça va être encore autre chose. Donc la relation au réel, c'est très important dans les textes narratifs. Et la relation que tu engages avec le réel, ça va déterminer le type de littérature dans lequel on va plutôt avoir tendance à te ranger. Surtout en France, où on aime bien ranger. Mais je me suis laissé dire que c'était aussi le cas ailleurs, mais y compris dans le domaine anglo-saxon, d'ailleurs.
Mmh.
Donc ce sera à creuser. Hein. J'ai pas le temps de creuser, mais enfin bref, il y a des gens très intelligents qui le font.
D'accord, ok. Donc en fait, toi, tu vois, tu inscrirais les trois contes européens dans une tentative, et même peut-être la collection.
Ouais, aussi, peut-être. Ça dépend de ce qu'on aura sous la main. De réconciliation, de brouiller les pistes, de faire bouger les lignes, d'envoyer un petit peu valdinguer tout ça aussi. Parce que je considère qu'on peut très bien parler du réel de manière métaphorique, justement. Je considère que je ne parle que du réel, en fait, dans ce que j'écris, mais de manière métaphorique et symbolique. Je suis plus sensible au symbole qu'au réel brut.
Tu dirais que la distinction entre les littératures de l'imaginaire et la littérature classique, c'est le réalisme, en fait.
Le traitement du réalisme.
C'est compliqué à comprendre. J'ai la sensation que...
C'est une problématique purement littéraire.
Oui, puis quand tu cites les exemples, on comprend tout de suite la distinction.
Ouais.
Mais quand il faut l'expliquer...
Ça va pas de soi.
Ouais, ça va pas de soi, je trouve.
Pour donner un exemple, moi, il y en a un que je trouve très intéressant en littérature générale. Pour le coup, il a eu le prix Nobel, Patrick Modiano. Il parle, dans son discours au prix Nobel, il avait un terme intéressant, il disait qu'il voulait montrer la phosphorescence des êtres et des lieux et des choses. Et je trouve ça très beau déjà comme terme.
Ouais.
Et puis quand tu lis ses textes, effectivement, pour moi il est proche de l'interstice, en effet, c'est très trouble. Ce sont des déambulations dans Paris, c'est un Parisien qui parle de sa ville et qui parle des personnages. Et... il a reçu le prix Nobel parce que le jury a voulu récompenser son œuvre, parce qu'il faisait œuvre de mémoire et tout ça. Il a dit « Oui, mais c'est pas tout à fait ça que je fais. » Effectivement, c'est pas tout à fait ça qu'il fait. C'est pas juste une œuvre de mémoire par rapport à 39-45. Il parle avec un certain regard sur le réel de 39-45 en particulier, mais pas seulement, sur le réel parisien et sur les gens, et des gens du quotidien, mais qui vont être un peu troubles, un peu biaisés, un peu... pas cosmopolite, plutôt interlope. Il aime bien le milieu interlope. Il y a une fascination pour le milieu interlope. Le milieu interlope, c'est ce qu'on range dans, ce qui est sur la frange de la légalité.
D'accord.
Et c'est clairement ça. Ouais, mais c'est clairement ça ce que décrit Modiano. Hein. Il parle de prostitution, il parle du marché noir, il parle de gens qui magouillent. Enfin, mais il n'en parle pas comme du polar noir. Ça, tu vois, ma référence, ce serait plutôt ça. Ce serait plutôt ce que fait Modiano avec tout cet univers de la frange. Il le fait dans des textes très courts aussi. Enfin bref, on aura compris que j'aime beaucoup Modiano.
Mais plus je me dis que plus je t'écoute et plus je me dis qu'en fait ce recueil de nouvelles peut-être aussi compris d'une autre manière que la mienne quand on a une culture littéraire.
Mais
importante.
Complètement.
Moi, j'ai pas une grande culture littéraire parce que j'ai des problèmes de dyslexie qui m'empêchent en fait d'accéder rapidement à la lecture. Donc, je dois vraiment faire un effort. Tu vois, 100 pages, et j'en ai vraiment chié pour les lire. Tu vois,
Et en version audio.
En version audio, j'essaye, mais ça prend beaucoup de temps.
D'accord.
Et comme par ailleurs, je ne sais pas si tu es au courant, mais je monte un podcast hebdomadaire.
Ok.
Je passe beaucoup de temps à faire de l'audio.
Oui.
Donc si tu veux, quand j'entends de l'audio, je suis là, voilà. Quoi.
Ouais, d'accord.
Tout juste Jean-Claude Amezen quand j'ai le temps d'écouter quelques émissions, parce que c'est vraiment trop beau. Mais voilà, c'est un peu difficile. Donc je me soigne, j'essaye de lire et je suis content parce que j'arrive de mieux en mieux à lire. Je l'ai lu assez rapidement ce livre, donc je suis assez heureux. Mais voilà, c'est pour te dire que j'ai pas la culture pour être un très bon intervieweur, même, tu vois, sur cette émission.
Oui, non, mais j'attends pas que les gens aient la même bibliothèque intérieure que moi pour lire ce que j'écris non plus. Hein. Moi, je pense à tout ça quand j'écris.
Ouais.
Ça veut pas dire que j'attends mon lecteur qui pense à tout ça quand il me lit.
Moi, ce que je peux te dire, c'est qu'on sent énormément de profondeur. Moi, tu vois, j'avais cherché du côté de la musique, en fait.
Oui,
pas du tout partie du côté. Mais il y en a aussi, oui.
Ah oui,
aussi.
Bien sûr, oui, complètement.
Voilà.
Complètement, parce que ce que je mélange aussi, finalement, c'est la musique savante et la musique populaire. La musique classique, c'est la musique savante, et le métal extrême, on n'a pas vraiment tendance à le ranger dans cette case-là.
À t'écouter,
oui.
Que ce dont tu as horreur, c'est des distinctions. Comment on pourrait dire ça ? Noble, non noble.
J'aime bien en jouer, en tout cas.
Et que c'est pas que tu n'aimes pas ces distinctions, mais disons que tu aimes bien jouer avec.
J'aime bien jouer avec. Il y a des moments où ça m'agace aussi parce que ça pose un jugement de valeur. Maintenant, il y a des choses aussi que je trouve pas terribles en littérature de l'imaginaire, mais il y a des choses que je trouve pas terribles en littérature blanche aussi, quoi. Donc, pour moi, cette étiquette noble, non noble ou savant, populaire, c'est pas un indicateur de qualité. Pas toujours. Pas forcément.
Ce qui est bizarre, c'est que quand on connaît qui tu es, tes avis souvent tranchés sur des questions, avec pas du tout peur d'exprimer justement ses avis tranchés et compagnie. Mmh, mmh. C'est bizarre de voir qu'au sein de ton courant littéraire, etc., tu luttes contre les gens qui tranchent.
Mmh. Enfin, qui tranchent sans, souvent sans avoir lu.
Quelqu'un de très tranché,
mais
tu
qui tranchent sans avoir lu souvent. Parce que quand j'observe du rejet de la littérature de l'imaginaire, c'est par des gens qui ne la lisent pas. Et inversement, quand j'observe un rejet de la part des gens de la littérature blanche, c'est par des gens qui ne la lisent pas. Et ça, ça
d'accord.
m'agace.
T'as envie de rejeter ces gens dos à dos.
Voilà, c'est commencer par les regarder comment ça se passe et après on pourra en parler. Parce que c'est peut-être pas si mal. Et pourquoi se limiter ? Parce qu'il peut y avoir le réflexe de s'enfermer dans un truc et ça aussi, ça m'agace.
Faut à tout prix que tu rencontres Natacha.
D'accord.
Vous êtes tellement d'accord sur tout. je pense que...
Bon, on va ennuyer d'accord. tout le monde alors.
Ouais, justement, ça pourrait être intéressant de vous faire vous rencontrer pour voir ce que ça donne comme type de conversation. Eh bien, merci Irène Delaunay. J'ai encore du mal à t'appeler comme
Sinon, hein. Tu dis Irène aussi, je pense.
Irène ?
Ouais.
D'où vient ce pseudonyme, du coup ?
C'est personnel.
D'accord, ok, très bien. Va voir ailleurs si j'y suis. J'ai compris la réponse et vu qu'elle veut être un dragon, cette charmante dame, je ne vais pas la contredire. Hein.
Voilà.
Allez, à très bientôt tout le monde. Merci Irène d'avoir été avec nous.
Merci.
Et puis allez voir sur Lulu les trois contes européens. Alors je vous rappelle que européen s'écrit avec un O, avec un tréma R-O-P-A-E collé. D'ailleurs, comment ça s'appelle cette lettre-là, le A-E collé ? On voit ça dans A-E-T-R.
Je ne sais plus.
NS, donc voilà, c'est pas, ça s'écrit pas comme d'habitude. Dans l'univers des mille marches, donc pour ceux qui aiment les mille marches, réécoutez notre podcast et puis éventuellement investissez dans le jeu et dans les trois contes aussi, ça vous permettra d'avoir des inspirations même pour des personnages, de découvrir la petite histoire derrière la grande histoire. Mmh. Merci Irène, à très bientôt tout le monde, portez-vous bien et surtout lisez bien. Mmh.